c'est la révision des cons. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des cons. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, deux fois semaine on est Benny par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf.
Ah, vendredi 16 décembre 2022. Bienvenue dans votre super révision des comptes. Celle de WWE SmackDown et celle de AEW Rampage. Je suis Benny's Money. Bienvenue, entrée. Grosse soirée ce soir. J'espère que vous êtes bien habillés pour cette super révision des comptes. C'était le retour de Roman Reigns ce soir qu'on n'avait pas vu depuis Survivor Series War Games. Ce soir, on avait demandé à Sammy, dont je porte fièrement le chandail ce soir, d'être très bien habillé, d'être sur son 36, car ça allait être une très grosse soirée. Mais, je sais pas si c'était finalement une si grosse soirée que ça. Mais, il y a une grosse soirée qui s'en vient. Et on va en parler parce que 2022 va être une très grosse année pour Kevin Owens et... Il y a eu un fait marquant, peut-être un fait marquant de sa carrière à WrestleMania. Là, il va finir l'année en beauté aussi. Donc, on va parler de ce qui va se passer pour le dernier SmackDown de l'année. Ça a été annoncé aujourd'hui. Il y a Ricochet, gros match de Ricochet ce soir, qui tentait de mettre la main sur le titre intercontinental qu'il avait perdu aux mains de Gunther. Alors, match revanche après toute cette Coupe du Monde. Coupe du Monde officielle qui se termine, celle du soccer qui se termine en fin de semaine. Et, Liv Morgan, Tegan Nox, elle aussi avait une chance de gagner les titres. Moins convaincant. Et, il y a aussi Bray Wyatt qui a fait une apparition, mais pas une apparition seule pour faire trembler de peur dans la boucane. Elle est nice. Alors, beaucoup de choses à SmackDown. Rampage. Il s'est passé des choses, mais beaucoup de choses qui n'avaient pas rapport avec les choses qui se passaient. En voulant dire qu'on avait un setup de Rampage pour qu'il y ait des choses, pour que ça provoque d'autres choses. C'était ça, Rampage. Du sang, John Moxley, naturellement. Des affaires dégueulasses. C'était épouvantable. Et, ça s'est terminé avec Cassidy, Sabian. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça va être intéressant? Je sais pas. Un Rampage, correct, mettons, sans plus. Mais qui n'a pas été le clou de la soirée. Probablement un peu upstagé par la nouvelle qui a mis fin à ce SmackDown ce soir. Alors, beaucoup de stock. Merci beaucoup de nous retrouver. Grosse semaine, juste avant Noël. Oui, j'espère que vos emplettes sont déjà faites, que vous n'êtes pas à dernière minute pour... le temps des fêtes, ça arrive quand même vite. Donc, la semaine prochaine, il y aura, ce sera semaine régulière, la dernière semaine régulière de l'année. Ensuite, petite pause durant les vacances, mais c'est une fausse petite pause parce que durant les vacances des fêtes, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais vous serez gâtés durant le temps des fêtes avec un classique, naturellement. Alors, voilà. Pour les habitués, c'est un rendez-vous annuel. Alors voilà. J'en dis pas plus, mais soyez à l'écoute. Soyez abonnés. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous et à la chaîne et à celle de C'est juste de la lutte, le gros rendez-vous qui s'en vient bientôt. Voilà. Je commence ça avec ça. Je pense que je vais commencer avec ça ce soir parce qu'il faut juste revenir naturellement sur toute cette histoire cette semaine qui, mon Dieu, a fait couler beaucoup de pixels partout. Celle de Mandy Rose, le renvoi de Mandy Rose. Je veux pas m'étendre là-dessus, puis je suis certain qu'on va en parler chez C'est juste de la lutte, dimanche. de toute cette saga et des opinions partout de ce que les gens ont dit à gauche, à droite de la situation avec Mandy Rose, son congédiement. Je ne vais pas commencer à m'étaler sur toutes les différentes sphères de comment on peut regarder et interpréter et juger tout ça. Je vais m'attarder à juste la façon dont les choses ont été faites par la WWE. Est-ce que, avec ce que vous savez du fait que, bon, il y a des photos qui ont été leakées, j'imagine, de son site, dont la WWE ne semblait pas connaître l'existence? On peut le croire ou non, j'ai un doute. Est-ce que c'était une situation qui méritait absolument une sentence automatique sévère, rapide, qui fait en sorte que le match qui avait été annoncé déjà à Deadline, qui avait été annoncé pour dire que le match de championnat serait à New Year's Evil, donc dans la première semaine, je crois, ou première ou deuxième semaine de janvier. Il fallait absolument provoquer les choses très rapidement, il fallait avoir une sentence rapide et tasser Mandy Rose à cause de ça. Je sais pas. Je trouve ça très, très bizarre comme situation. Je trouve ça un peu même très exagéré quand on fait la nomenclature de tous les scandales qu'on a eus cette année à la WWE. Est-ce que vraiment l'image de la compagnie est à ce point affectée du fait que des photos, oh là là, compromettantes, trop sexy sur un site qui est payant, qui n'est pas un site public? Les photos n'étaient pas diffusées de manière publique, il fallait s'abonner, puis etc. Et il fallait rapidement. Là. Oh, attends, c'est une situation qui a été, selon moi, très mal gérée. Sinon, pour faire beaucoup de publicité pour Mandy Rose. Et, c'est ça. En bout de ligne, je ne suis pas certain qu'elle ait été super bien traitée là-dedans. En même temps, elle avait un contrat, elle avait des choses à respecter, choses qu'on n'est pas au courant. Il n'y a pas eu de statement officiel, il n'y a pas rien eu non plus de déclaration. Je n'ai pas vu ça nulle part comme quoi tout avait été officialisé. Ça reste encore un peu flou. Alors ça aussi, c'est un peu étrange. Pourquoi on n'a pas décidé d'y mettre un communiqué, d'y aller officiellement, de dire, bon, elle ne fait plus partie de la WWE, à moins que je me trompe, à moins que je ne l'ai pas vu passer. Mais pourquoi on n'est pas allé de façon formelle? Ça aussi, c'est un peu étrange, tant qu'à se positionner et à dire, ah non, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon pour l'image de la compagnie, etc. Pourquoi on le fait en silence? Sans que ce soit, même si tout le monde le sait finalement, pourquoi on n'a pas été de façon officielle? Un peu étrange, ça aussi. Et pour l'autre aspect de « Ah, que c'est pas bon pour la lutte féminine », je ne vais pas m'éterniser, mais si c'est Mandy Rose qui fait que la lutte féminine a mauvaise presse, mauvaise réputation, ou que ça cause des conséquences du fait que les femmes ne sont pas respectées. Je trouve que c'est de porter beaucoup de fardeau sur Mandy Rose. Après, je ne veux même pas m'attarder sur le fait « As-tu le choix d'envie de... » Oui, elle peut faire ce qu'elle veut d'envie. Puis, c'est l'opinion de tout le monde de savoir si oui ou non ce qu'elle fait. Est-ce que c'est respectable, pas respectable? Est-ce qu'on le ferait, on ne le ferait pas? Ça la regarde, elle. Ça, je ne veux même pas m'attarder à ça. Mais est-ce que vraiment, elle a entaché la lutte féminine puis que tout est sur son... Je trouve qu'on a porté beaucoup sur le dos de Mandy Rose quand on regarde tout ce qui se passe partout. Puis c'est ça. On en a fait beaucoup sur son dos sans qu'on sache tout. Naturellement. Alors, voilà. Je pense pas que la WWE, ça a été la meilleure gestion des choses. Et que quand on parle malheureusement de double standard, quand on fait référence à ce que au scandale qu'il y a, aux gens qui sont encore engagés par la WWE, qui ne sont pas non plus des bons exemples pour la société en général, je pense qu'on a été un petit peu, comme dirait l'expression, jump the gun dans le cas de Mandy Rose. Mais bon, on verra un jour, j'imagine, qu'il y a des détails qui vont sortir ou enfin, il y aura peut-être une entrevue. Est-ce que Mandy Rose va aboutir ailleurs? On verra plus tard, mais c'est ça. Ça a été un gros, une grosse affaire pour... Mais c'est un peu comme ça, hein? On a souvent des grosses affaires, puis finalement, bof, pas tant. Puis après ça, on l'oublie, puis on passe à autre chose. Mais voilà, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. C'est pas toutes les meilleures réactions, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais voilà, un dossier quand même intéressant en cette fin d'année, qui vire un peu les choses de bord, je trouve. C'était comme, il y avait une belle ascension, tout allait bien dans la WWE, puis là, bah, tout à coup, là, ça va plus si bien. Là, il y a des tensions en coulisses entre Roman Reigns et Kevin Owens à cause du tympan et de la claque. Là, Vince McMahon veut revenir. Là, il y a Mandy Rose qui est congédié. Ah! C'est le chaos. Alors, c'est beau. C'est beau le rythme. C'est beau tout ça. Ça fluctue. C'est comme les actions en bourse. Ça fluctue énormément. Alors, c'est très beau. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez réagir encore sur le forum de C'est juste de la lutte, sur le Discord de C'est juste de la lutte aussi, n'hésitez pas à le faire. Et je suis convaincu qu'on va sûrement en parler longuement cette semaine. Dimanche, manquez pas ça, autour de 19h30, 20h, manquez pas l'épisode de C'est juste de la lutte. Ce soir, gros épisode, parce que Roman Reigns avait demandé à Sami Zayn, par l'entremise des Usos, de se faire très propre, car ce soir, nous étions à Chicago, au Allstate Arena, pour l'épisode 1217 de SmackDown. On a vu l'entrée en première partie de Jey Uso, Jimmy Uso et de Sami Zayn qui étaient de leur bord, ensemble, les trois dans l'auto, heureux, Sami, bien sapé, comme on dit. Toujours, tu sais, il savait, bien taillé. Lui qui est allé voir Yankee, je crois, le gars des Usos. Donc, pour être tout propre, tout clean, là, il était tout bien nerveux, il savait pas trop. Puis, dans le premier segment qu'on a vu en coulisses, là, on a voulu, là, tu sais. Oh, le rassurer. Ça va être une grosse soirée, Sami. Je pense qu'il va t'arriver des choses, le fun. Mais, oh, Jimmy, il y a un petit peu... Jimmy, t'es pas sûr. Jimmy, t'es pas sûr de tout ça. Mais, bref, ça s'est déroulé sur plusieurs segments et on va en parler en toute fin de résumé de ce SmackDown. Ce qu'on a entendu de Michael Cole dès le départ, il y a eu quelques hommages durant la soirée. Brody Lee, qui aurait fêté son 43e anniversaire, Luke Harper, à la WWE. Quelques références durant la soirée, la première de celle qu'on entend toujours à la All Elite Wrestling, mais maintenant dans la bouche de Michael Cole. It's Friday, you know what that means, qui était un bel hommage rendu à Brody Lee ce soir. Et on commençait immédiatement. Le premier match de la soirée, c'était Liv Morgan et Tegan Nox qui affrontaient Damage Control pour les titres par équipe. Car naturellement, une fois que tu gagnes un match, quand tu fais partie de la division tag team, ben, c'est comme, mon Dieu, tu fais partie de la division tag team. Qui l'eût cru? Personne ne l'eût cru que tu faisais partie de la division tag team. Alors, ça donne un match immédiatement. Ah là 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 là. On était vraiment très investis par ce match. Beaucoup de chance que Damage Control perde comme ça. Mais en même temps, avec ce qu'on a vu cette semaine, on se dit, ben, peut-être que n'importe qui peut perdre son titre à tout moment. C'est possible, on ne sait plus. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bref, Liv Morgan a pété une coche dans les premiers instants du match en descendant en dessous, pendant que Dakota Kai aussi essayait de chercher de quoi en dessous du ring. Finalement, pouf! Liv Morgan nous sort un kendo stick, veut attaquer dans le ring. Il faut que Tegan Nox intervienne, l'empêche d'attaquer avec le kendo stick. T'es en train de perdre la tête complètement. Une autre qui est en train de perdre la tête, je pourrais dire, dans la division féminine. Bref, confusion. Malheureusement, Damage Control ne profite pas du tout de la confusion pour prendre le dessus. Ils perdent encore le momentum et finalement, ils vont se retrouver à l'extérieur. Ça ne va pas bien pour Damage Control en début de match. Ensuite, il y a eu Liv et Tegan qui ont fait le combo Cold Breaker Shining Wizard sur Io, mais Dakota Kai a empêché le tomber. Ensuite, Nox a fait tomber Io, oui, en bas du ring. a voulu revenir dans le ring par la suite, mais Bayley est intervenu dans le dos de l'arbitre. Et là, ben, les deux se sont comme renversés. Et finalement, Tegan Nox a envoyé Bayley par-dessus la barricade pour l'envoyer dans la foule. Et au même moment, Paclao! Tegan Nox te reçoit un coup de pied directement sur le bord de la tempe. Et là, ben, c'était très suspect parce que la personne qui a donné un coup de pied, c'était un fan, une fan, habillée avec un hoodie noir caché. Puis là, finalement, elle s'est sauvée avec la sécurité qui l'a sortie immédiatement pour pas qu'on sache qui était cette assaillante. Et ben, finalement, Io Sky est allé de son moonsault pour aller chercher la victoire sur Tegan Nox. Et Liv Morgan, en 10 minutes 50, ben c'est ça. Et c'était tellement palpitant, cette histoire. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer d'identifier qui était cette assaillante mystère. J'ai réussi quand même à sortir quelques clichés, notamment son soulier brillant qui donnait l'impression que c'était Carmella. Mais finalement, sur un autre angle, tu voyais que non, ça avait l'air un peu d'une personne asiatique, ça semblait comme ça. Et effectivement, on nous a fait la grande déclaration que c'était nul autre que... Voyons, pendant que j'essaie de retrouver, mon Dieu, j'ai-tu l'image? Je pense pas que j'ai l'image. J'aurais aimé ça, vous trouver l'image. Là, c'est dommage. Tu sais, c'est le fun quand tu as une belle... En tout cas, je n'ai pas l'image que j'aurais voulu. J'aurais voulu vous trouver l'image, malheureusement. Pas l'image. Mais c'est pas grave. On a découvert que c'était Xiali. Oui, Xiali qui est venu aider Damage Control. Pourquoi? On le sait pas. Quelles seront les répercussions de ça? On le sait pas. Mais on a vu un beau vidéo avec Adam Pearce qui enlevait son hoodie de la tête en coulisses sur Twitter. Alors, tu sais, naturellement, 2 heures de show à SmackDown, c'est pas assez. C'est très difficile. Hein? Y a trop de stock. C'est très compliqué. C'est pas comme à Raw. Si Xiali avait attaqué Tegan Nox à Raw, on l'aurait vu en boucle et en boucle. On aurait fait plein de replays. Mais là, non! Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce sera aussi palpitant que Nikki Cross? Peut-être. Honnêtement, j'aurais aimé ça vous dire que, ouh, excitant, un autre membre de Damage Control. Mais avec ce qui est arrivé avec Nikki Cross, je me garde une petite gêne encore de dire que tout ça, c'est bon pour Xiali. Enfin, on verra. On verra bien. Mais, tu sais, ça pourra faire éventuellement, je sais pas, si elle fait partie de Damage Control, va-t-elle pouvoir, elle aussi, se promener d'un poste à l'autre? Peut-être. J'imagine. On le sait pas trop. J'aimerais ça être excité, mais je ne suis pas tant excité, malheureusement, par la situation. Alors, match correct, sans plus, un petit 3$. C'est ça. C'est pas, ça ne passera pas à l'histoire, malheureusement. Segment assez rigolo, où on essayait de nous expliquer que l'attaque de la semaine dernière du pauvre LA Knight, qui se fait attaquer à tout bout de champ, ne peut pas vivre sa vie de lutteur professionnel en paix, toujours attaqué. Et lui qui blâme toujours Bray Wyatt. Ben là, Michael Cole a reçu un code QR. Il a reçu un code QR. Puis là, on nous montre les images de ce code QR. Et tu vois, LA Knight qui est toute la bouche. Puis là, il est avec le masque par-dessus lui. Puis là, tu vois quelqu'un qui filme, mais tu sais, on ne sait pas trop c'est qui. Puis là, dans le noir, puis là, on y arrache le masque. Puis finalement, il y a la bouche toute tapée avec du duct tape. Fait que... Ça va pas bien pour le pauvre LA Knight, là, qu'on voit ensuite marcher dans le corridor de façon très... Très, très, très fâché. Donc, on revient de la pause et il nous fait une belle promo dans le ring où il call out Bray Wyatt, mais il call out vraiment comme un lutteur en disant... Oh, tu sais, je sais que c'est toi qui m'as frappé, mais je sais que tu es une grande vedette de la WWE. Tu étais un ancien champion. Tu es très respecté et tout. Mais tu sais, depuis ton grand retour là, qui a fait beaucoup jaser, ben là, tu fais juste pleurer puis pleurnicher, puis tu m'attaques dans le dos. Maudit sans cœur. Alors, viens-t'en, yeah. Ce qui a fait sortir Bray Wyatt et Bray Wyatt aussi. A fait un hommage à Brody Lee en sortant en faisant « yeah, yeah, yeah » à la manière de Brody. Ça fitait bien en plus avec, tu sais, LA Knight, alors c'était beau. Alors, Bray qui est sorti dans la boucane pour dire à LA Knight « oh, je suis tanné de toi. Je suis vraiment tanné de tes petits jeux puis de tes affaires. Puis, c'est pas moi. Mais je sais que tu me crois pas. Mais c'est pas moi. Puis je te comprends que tu penses que c'est moi. mais t'es pas à bonne place. Puis là, je suis tanné. Puis là, on sait comment cette histoire-là va finir. Fait que, tu sais quoi? Et là, Bray Wyatt est rentré dans le ring, mais à ce moment-là, LA Knight l'a tout de suite attaqué. Puis là, paf, puis là, il l'envoie dans le coin. Fait que là, Bray Wyatt est assis dans le coin, puis il commence à lui donner des coups de pied, Quand là, un nouveau vidéo qui apparaît à l'écran. Et là, petit cochon, qu'est-ce que t'as fait, petit cochon? Puis il n'arrête pas de le traiter de petit cochon, la vidéo, en parlant de LA Knight. Il dit, tu veux voir quelque chose d'épeurant? Et là, Bray Wyatt se met à rire dans le coin, pendant que dans la boucane, nous arrive Uncle Howdy, qui est un petit monsieur trapu avec le masque. Puis il est comme... Alors, c'est très épeurant, rigolo, intriguant. Qui est donc ce Uncle Howdy? Qu'a-t-il comme... lien avec Bray Wyatt. On le sait pas. C'est tellement à compte-gouttes. Il y avait un des writers de la WWE qui ami, je pense, avec Bray Wyatt, qui disait ce soir, il fallait absolument pas manquer ça. Ça mettait un peu la barre un peu trop haute, à mon sens. Oui, on a vu que là, Uncle Howdy, c'est un vrai personnage qui existe pour vrai, qui est un petit trapu. Mais c'est ça. Tout est tellement au compte-gouttes. Faut être patient, faut attendre tous les petits segments et toutes les affaires. C'est long. On pourrait décider de ce qui se passe, mais c'est long. C'est très, très long. Enfin, bref, on verra ce qui va se passer entre les deux. Il y aura un jour, peut-être, un match. Y aura-t-il un match? On le sait pas. On sait pas ce que Bray Wyatt veut faire. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est le deuxième match, mes excuses. Ricochet qui affrontait pendant que j'essaye d'arranger. Voilà, la caméra, merci. Ricochet qui affrontait Gunther pour le titre intercontinental, lui qui avait remporté la Coupe du Monde de SmackDown contre de Legado del Fantasma, Santos Escobar, voilà. Et avant le match, Adam Pearce a immédiatement chassé Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Bye-bye. Pas le droit d'être aux abords du ring. Donc, ça voulait dire que Gunther était seul pour se défendre contre le terrible Ricochet. Aïe, 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 pauvre Gunther. Et on a eu un match relativement classique, mais très efficace dans sa finale. Et je vous explique pourquoi. Parce que Gunther a dominé le match presque de A à Z, malgré le fait que Ricochet, comme l'a dit Michael Cole, était rapide comme un puma. Il est brillant, ce Michael Cole, pour nous glisser des informations subtiles comme ça. C'est bien fait. Ensuite, Gunther a dominé vraiment complètement, l'envoyé en back souplex sur le tablier du ring, lead chop, Boston Crab à l'intérieur du ring, transformé en crossface. Ricochet, il faut qu'il trouve tout son petit change pour pouvoir s'en sortir. Finalement, Ricochet va reprendre un peu le dessus avec un springboard moonsault à l'extérieur, directement sur la tête de Gunther. Et c'est comme ça un peu que Ricochet va reprendre avec des belles manœuvres, des pirouettes, comme on le connaît. Il est allé d'un corkscrew top et con. Ensuite, Gunther a tenté de faire une German suplex de la troisième corde, mais Ricochet est tombé sur ses pieds, puis il est tombé dominant. Puis là, il pouvait regarder presque Gunther dans les yeux en disant « Haha, tu n'arriveras jamais à me battre ». Mais malheureusement, Gunther est très puissant dans ses chops, même qu'à un moment donné, Ricochet va tenter de faire un dropkick et Gunther va l'arrêter direct, juste avec un chop, pouf. Vertical suplex. Finalement, ça n'était qu'un compte de deux. Ricochet s'en est sorti. Et là, ça s'est suivi une série de grosses manœuvres et des gros near falls. Donc, shooting star de la part de Ricochet pour un compte de deux. Ensuite, là, Ricochet a commencé à vouloir être plus sérieux, a enlevé le tape qu'il y avait autour des poignets, puis là, clac, clac, s'est mis à sacrer des claques un peu partout. Il voulait absolument y aller coup pour coup contre Gunther. Finalement, Gunther, c'est ça, il a arrêté sec Ricochet avec une chop. Il est allé d'un powerbomb et là, compte de deux. Et là, ça, c'est incroyable. Les gens n'en revenaient pas. Ricochet, ensuite, malheureusement, a voulu reprendre le dessus, mais s'en est malheureusement mal tiré parce que, hop là, Power Slam, la symphonie Et c'est Gunther qui l'emporte. Un peu surprenant, étonnant de la façon dont le match a été structuré. On pouvait s'attendre quasiment à ce que Ricochet, ce soit quasiment une victoire presque assurée. Lui qui avait remporté la Coupe du Monde. Gunther qui n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression que Gunther a beaucoup de momentum ces temps-ci. Alors, il y avait vraiment place à un changement de titre. Et non, Gunther qui conserve. Les comparses de Imperium, très heureux, sont venus rejoindre Gunther dans le ring. Et là, ben, on a poursuivi, on a voulu faire l'attaque sur Ricochet après le match. Mais Braun Strowman est venu à la rescousse sauver son bon ami Flip-Flop Ricochet et finalement fait fuir Imperium. On peut s'attendre à ce que ce soit l'affrontement à Royal Rumble, probablement au Royal Rumble. Gunther et Braun Strowman pour le titre intercontinental, j'imagine. Alors, un très bon match, spectaculaire. Ricochet qui a été spectaculaire comme d'habitude et Gunther qui a été violent, puissant dans ses chops, dans les coups qu'il donnait. Donc, un très bon match, un press. J'ai le goût de donner 4,25, tellement je me sens généreux, surtout parce que tout avait l'air planifié pour que Ricochet l'emporte, puis finalement, il ne l'emporte pas. Puis, je suis content. Ça sauve un peu Gunther. C'est une victoire qui lui fait du bien. Le ramène un peu de façon proéminente. Il n'a pas l'air juste un gars. Parce que s'il avait perdu, je pense que ça aurait un peu fait chuter la cote de Gunther, malheureusement. C'est une défaite seulement. Ça aurait été seulement une défaite. Pas si important que ça. Mais il y avait comme quelque chose qui... tu sais, ça va pas super bien, je trouve, le personnage de Gunther. Là, au moins... Il a passé au travers de la guerre dans un match important et il s'en sort gagnant. Donc, j'étais heureux de ça. Bravo. Alors, bon 4-25 pour ce match. Legado del Fantasma, eux, avaient un match spectaculaire contre Itro et les Viking Raiders. Oh là 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 là, du pur bonheur. Du pur bonheur, ce match-là. Ah. On a appris avant le match que les gagnants allaient affronter les Usos la semaine prochaine. Oh là là, oh là là. Je te dis que la division masculine fonctionne comme la division féminine. Tu as juste besoin de gagner un match, puis pouf! Tu te retrouves au sommet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a deux semaines, les membres de It Row, Top Dollar et Adonis, Ashanti Adonis, avaient perdu en 4 minutes contre les Viking Raiders. Alors, oui, là 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 là. Je te dis que, ouf, c'est le résultat de ça est fantastique. Top Dollar qui, déjà dans le début du match, a très bien paru, s'est quasiment enfargé en courant d'une corde à l'autre et il fallait qu'il fasse une double corde à linge sur les Viking Raiders. Ça a failli être la catastrophe, il s'en est sorti in extremis avant de se faire massacrer à coup de dropkick de la troisième corde par les Legado del Fantasma. Joaquin Wilde et Del Toro, Cruz Del Toro, qui ensuite sont partis et ont sauté, eux, à l'extérieur de la troisième corde en stéréo. Très, très beau. Ils ont bien paru sur leur manœuvre de pirouette de haute voltige, oui. Une belle prestation, le fun, rapide, mais le fun. Ensuite, il y a eu un beau corkscrew moonsault de la part de Del Toro sur Top Dollar pour un compte de 2, mais j'espère que vous avez vu. Parce que... C'est... Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, je sais pourquoi. Puis c'est pas gentil. Ce que je veux dire là, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. C'est pas mon genre. Mais c'est pas gentil. Mais je vais le dire pareil. Parce que Top Dollar, il souvent nous fait paraître... Pas de paraître, mais il fait... fait un peu comme si monsieur était plus big que n'importe qui. Et que, tu sais, alors lui est très important. C'est un peu comme, tu sais, ben c'est ça. Il pense que lui, il a tout fait dans la vie. En même temps, c'est une expression qu'on connaît, « fake it till you make it », c'est-à-dire fais semblant que tu es très, très bon. Comme ça, un moment donné, tu vas devenir très, très bon juste parce qu'à force de faire semblant d'être très bon, ben les gens vont dire que tu es très bon parce que tu vas finir par être très bon. Alors, c'est la technique que Top Dollar utilise. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il feinte de s'en aller en Topicon Hero. T'sais, il fait semblant, il va dans les cordes, puis finalement, il le fait pas parce qu'il se dit, à grandeur pas à grosseur qu'il y a, t'sais, c'est impossible de faire ça. T'sais, un peu comme Keith Lee, quand il fait ça, puis tu fais, oh my God, ça n'a pas de bon sens, à grosseur pas à grandeur qu'il y a. Eh bien, Top Dollar s'est dit, ce soir, c'est mon soir. Aïe, 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 Top Dollar est parti. Il est parti dans les cordes. Et là, ben, allez sur mon Twitter. Allez sur mon Twitter, allez voir ça. C'est fantastique. Benny's Money, si vous cherchez mon Twitter. Sinon, c'est dans la description. Très facile à retrouver. Ou sinon, allez sur bennysmoney.com, vous allez trouver tout. Il s'était lancé dans les cordes. Il s'est enfargé. A passé par-dessus la troisième corde, mais s'est enfargé dans les cordes. Puis fou. Et tout le monde l'a vendu. Et lui, il est retombé sur ses pieds comme si de rien n'était, puis qu'il avait fait le plus beau top icon de l'histoire. Tu sais, il nous a fait... Puis après ça, c'était rendu Ray Phoenix quand il marchait en bas. C'était de toute beauté. Et là, ben, de retour dans le ring, il y a eu combinaison avec Adonis où on fait l'espèce de back suplex, dropkick, combo. Aïe, 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 pauvre. C'était le Del Toro qui était là, dans ses bras. Top Dollar. Et hop, là, ça a failli être une catastrophe. Top Dollar l'a sauvé in extremis, mais clairement, à la fin, il s'est vraiment fait mal à la jambe. Mais ils sont allés chercher la victoire, Hit Row, dans tout ça. C'est la beauté de la chose, parce que Hit Row va affronter The Usos avec ce qu'on a vu de Top Dollar à la fin du match. Yeah, je ne sais pas. J'ai comme un doute sur... Je serais pas surpris que les membres de Hit Row se fassent attaquer par Solo Sikoa. Moi, en tout cas, si j'étais Booker, c'est ce que je ferais. Je ferais que Solo serait comme « Non, ma gang de pas bon, clac! » Puis il se met à attaquer Top Dollar dans la jambe. Avec sa chaise. À bon coup de chaise. Puis après ça, un coup dans la gorge. Puis c'est terminé. C'est ce que je ferais. Mais bon, c'est pour ça sortir d'un pétrin. C'était vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Je vais donner une étoile à Legado del Fantasma. Il y a aussi eu un petit three-way improvisé des femmes dans ce match entre Zelina Vega, B-Fab et Valhalla. Ça aurait été presque mieux, je dirais, de faire un three-way entre ces trois-là que de match qu'on a eu en équipe. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive des fois. Mais ouf, celle-là, c'était pas réussi. Alors, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. Je m'attends pas à grand-chose. Je mettrai... C'est ça. Moi, je mettrai... J'irai avec le bon ami Solo pour régler des problèmes de booking. Enfin. Il y a Raquel, justement, qui, elle, veut revenir à l'action malgré les médecins. Raquel Rodriguez, qui, malheureusement, avec son bras cassé, les médecins ne veulent pas qu'elle lutte, mais elle veut lutter absolument. Et la semaine prochaine, il y aura un five-way, un gauntlet match five-way. Pourquoi? Sûrement, éventuellement, quelqu'un qui veut affronter Ronda Rousey. Donc, j'imagine. Et là, elle dit que malgré que les médecins ne veulent pas, elle va y aller dans le match. Et là, naturellement, Shayna Baszler et Ronda Rousey arrivent. Et il y a ta poche, il y a kick dans le bras. Et là, oh là 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 là, on ne le sait pas, c'est Raquel. Elle va-tu être en mesure, avec juste un bras, de remporter le five-way la semaine prochaine? Si vous vous demandez la réponse est oui. Parce que de toute façon, qui c'est qu'ils vont envoyer? Je ne sais pas. C'est dur à dire maintenant. On ne le sait plus. Le segment final. Putain, là, vous voyez que tout ça s'est passé très, 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 très rapidement. On est déjà à la finale, la grande finale de cette soirée de SmackDown. Donc, une soirée qui a passé relativement rapidement, ce qui était le fun quand même. Ça fait que c'est comme, oh my God, on est déjà rendu. C'est comme s'il s'était passé des affaires, puis finalement, tu fais, c'est pas passé tant de choses que ça. Mais c'était le fun. On s'est amusé. Surtout avec la Bloodline. Sammy, qui, c'est ça, était nerveux. Nerveux, notre Sammy. Il savait pas, qu'est-ce qui va se passer? On le sait pas, ils vont-tu? Il savait pas trop. Tu sais, là, Jimmy... Jay était comme, ça va être une bonne soirée. Ça va être gros. Puis let's go, t'es prêt. Puis il dit, je vais aller chercher de l'eau. Je vais me calmer, mais aller chercher de l'eau. Puis là, pendant ce temps-là, les Usos se parlent de Jimmy. Comme, moi, je suis pas sûr que Roman va faire que Sammy soit un Usos. Je pense pas, moi. Mais tu sais, en tout cas, il faudrait pas que Sammy, si ses attentes sont trop hautes, sinon il va être déçu. T'sais. Puis là, Jay est comme, non, je suis sûr que ça va être correct. Là, finalement, Roman arrive et il est avec Solo Sikoa, qui, lui, n'était pas avec ses frères. Non, lui, Solo était resté avec Roman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Y a-tu quelque chose? Enfin, il est avec T-Paul, il est avec Solo. Et là, Jimmy vient le voir et il fait « Hey, Roman, c'est fun. On est content que tu sois là, tu sois de retour et tout. » Mais là, à soir, là, tu vas-tu vraiment enlever le titre honorifique ou honorary. C'est plus honorary. Pas honorifique. Mais bon, ça va-tu devenir un vrai Usos, là? Tu sais, ou non, parce que, tu sais, en même temps, moi, je t'aime, hein? Puis j'aime la famille, puis j'aime la bloodline, puis tout. Fait que, tu sais, en tout cas, d'un côté comme de l'autre, je suis ton bord, moi, je suis ton bord. Fait que là, c'est bizarre, tu sais, c'est comme un peu... Roman, finalement, après que Jimmy soit parti, il dit à T-Paul, appelle Adam Pearce. Fait que T-Paul, il prend son sel, puis il crie bien fort à son sel. Appelle Adam Pearce! C'est de la façon qu'il fonctionne avec son cellulaire, T-Paul. Alors, Adam Pearce arrive dans le segment suivant. Et là, Adam Pearce, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Fait que le Roman, il dit, ouais! T-Paul, parle-y. Fait que là, T-Paul dit, ouais, là, le 30 décembre, là, on voudrait, non, c'est pas vrai, il a dit, on voudrait t'organiser les affaires, on voudrait t'organiser ça. Il n'a pas dit 30 décembre. Il a dit, on veut t'organiser ça, on aimerait faire un match Roman Reigns, Sami Zayn contre Kevin Owens et quiconque. Quiconque qui veut. Donc, là, Adam Pearce dit, asseoir? Non, pas asseoir, voyons. On fera pas ça devant des imbéciles à Chicago. Dernier SmackDown de l'année, 30 décembre, à Waito. Hein, pourquoi pas? Ben oui, OK, d'accord. Puis Kevin Owens peut choisir le partenaire de son choix. Oui, il peut même prendre toi si tu veux, Adam Pearce. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Bref, tout était en place. Si vous avez écouté la semaine dernière la révision et SmackDown, vous avez su qu'il y a un gars qui s'en vient le 30 décembre. Oh! Il y a un gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais que ça fait pas si long. Mais on... Oh là là. Une drôle de coïncidence, ça. C'est une drôle de coïncidence. Alors, on arrive à la finale de la Bloodline. Tout le monde fait son entrée. Tout le monde est heureux. Sami danse dans son superbe veston. Et là, ben, Roman dit que ça fait longtemps. Hein, il n'a pas vu sa Bloodline depuis War Games. Et ils ont dominé. Ils sont contents. Donc, Roman salue tous ses partners. Solo, let's go, Jay, let's go, Jimmy. Puis il arrive à Sami, puis il prend une pause. Puis là, la foule est comme... Puis là, il fait un go. Ah, c'est beau. Puis là, ben, il nous dit, ah, c'est la soirée. À soirée. Mais c'était supposé être la soirée de Sami Zayn à soir. Mais non. Parce que là, on a un problème. Oh. Là, Sami, il change un peu d'air. T'sais. On a un problème qui s'appelle Kevin Owens. Puis il arrête pas de t'achaler, puis il arrête pas de te suivre, puis il arrête pas, tu sais, tout le temps, là. Puis s'il y a un problème avec toi, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Puis s'il y a un problème avec moi, ça veut dire qu'il y a un problème avec la Bloodline. Oh, fait que là, faut s'en débarrasser de ce problème-là. Mais c'est pas grave, on a une solution parce que le 30 décembre, toi puis moi, on va faire équipe. Puis on va se débarrasser du problème qu'il y avait. On va le smash. Puis après ça, ça va être terminé, exterminé. Il va être fini. On le reverra plus, Kevin Owens. Sami prend le micro. Oh, oui, c'est vrai. Parce que là, il est maudit fatigant, qui n'arrête pas. C'est comme un cancer. Il n'arrête pas, puis il m'achale tout le temps. Puis là, je ne peux plus rien savoir. T'sais, il fait ça parce que je suis son seul ami. Puis il réalise qu'il vient dire, non, mais je suis son ancien ami. Je suis son seul ami. Mais tu as raison. Ça va être bon. Ça va être le fun. On va faire équipe ensemble. Ça va être un honneur de... Arrives-tu pas à l'écran géant? Celui qu'on avait annoncé la semaine dernière. C'est un peu plate qu'on l'a... Ben, on l'a annoncé, c'est ça. On voulait annoncer pour ses ventes de billets. Puis là, finalement, on a un peu révélé le punch. Fait qu'on s'est dit, on va pas faire tarder les gens. C'est John Cena qui arrive. Qui dit, hop là, hello, surprise! Je sais que vous aimez ça, les surprises. Eh bien, tu sais quoi? J'ai eu une surprise, moi aussi. Quand j'ai reçu un message texte. À la minute, à l'instant, ça fait même pas, on ne sait même pas combien de temps, mais ça fait vraiment pas longtemps parce que là, on se dit, mon Dieu, j'ai reçu un message texte. Kevin Owens vient de me texter. Puis là, Kevin Owens, il me dit, hey, buddy, toute la patente, peacemaker, sais-tu que ça fait 20 ans, depuis 20 ans, à chaque année, on a au moins un combat à chaque année. Puis là, on arrive au mois de décembre, puis sais-tu quoi, en 2022, tu n'as eu aucun combat. Fait que ta streak de un combat au moins par année depuis 20 ans, va s'éteindre. Oh là là. Mais là, il dit, ah, ça tombe-tu bien? Je viens de me faire call out par Roman Reigns et Sami Zayn pour un match tag team, puis j'ai le droit de choisir le partenaire que je veux. Fait que ça te tenterait-tu? Ah ben, Colin, si j'ai pas la chance de pouvoir aller me battre contre la maudite Bloodline. Oh là 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 là! Oh 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 oh! Hey! Puis d'avoir une chance d'avoir un dernier match, ah ben, Colin, que oui! Fait que là, la Bloodline n'a été pas fine cette année. Santa Cena s'en vient, puis ça va être oh oh holy shit! Oh là 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 là! Yeah, the Roman. Et c'est comme ça que c'est terminé SmackDown. Donc, c'est officiel, Kevin Owens, John Cena. Donc, Kevin Owens, dans la même année, va avoir affronté Stone Cold et fait équipe avec John Cena dans la même année, comme ça, en 2022. C'est beau. Lui, il y a comme un retour de quelque chose. Lui qui aime bien, il en a parlé avec Elias, du passé, puis là, tout ça. Puis là, ils vont faire équipe avec John Cena, celui qu'il avait attaqué en premier pour arriver sur le main roster. C'est quand même beau, en fin de compte. Il y a une belle... je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Bref, ça va être donc eux qui vont faire équipe ensemble pour affronter Roman Reigns et Sami Zayn le 30 décembre prochain. Ça va être une grosse soirée, ça, le 30 décembre. J'ai l'impression que 30 décembre, d'après moi, on va regarder ça. Ça va être, d'après moi, 30 décembre, le Watch Out, ça va être toute une soirée. Alors, finalement, John Cena, qui va avoir son dernier, son combat de l'année, tout juste avant la fin de l'année, pour le dernier SmackDown de 2022. Alors, grosso modo, un épisode qui a quand même passé bien, vite, le fun, divertissant, avec beaucoup de belles choses. On a appris que, justement, Bray Wyatt avait vraiment un Uncle Howdy. On a appris que John Cena allait être là. On a appris que Top Dollar, c'est pas encore Top Dollar. Et ben c'est ça, que Damage Control va peut-être avoir une nouvelle alliée, un nouveau membre, une nouvelle membre de... Je sais pas, peut-être, on verra. Donc, des questions. Il y a eu beaucoup de mystères, des mystères résolus rapidement. Mais quand même, un épisode de SmackDown qui a très bien passé puis qui va sûrement scorer fort parce que on a tellement publicisé que Roman Reigns, il est de retour. Oh là là. Alors, quand même, somme toute, un bon épisode. C'est toujours plus facile à digérer que n'importe quel Raw de 3 heures tu vois, c'est ça la grosse différence ce soir avec SmackDown et Raw quand on la cherche. Tous les segments avaient quelque chose. Il y avait comme une raison d'être et une suite dans les idées. C'est-à-dire que, tu as un match pour quelque chose, puis là, après, ben il y arrive de quoi? Puis là, on fait, OK, ben ça va être la suite, là, tu sais. Tandis qu'à Raw, c'est souvent comme, on a un match. Pourquoi? On ne sait pas. Puis après, ben fait que c'est plus difficile dans ce temps-là, un peu. Ricky, qui est absolument... disons-le, en érection pour ce match du 30 décembre. Il faudrait même se demander où c'est le... D'après moi, Ricky serait sur le bord d'y aller, tellement que ça va être la folie. Mais on va se retenir jusqu'au février. Parce que là, février, ça va être la folie. Ça va être la folie, ça, c'est certain. On va pouvoir aller au Bouclair le 26, absolument. Le Boxing Day Bouclair. Allez chercher vos coussins. Ça va frapper fort, d'après moi. Ça va être une grosse vente de Boxing Day chez Bouclair. J'espère que les gens sont prêts. Ils l'auront su. Ça met la table, ça, à la deuxième partie de la révision, celle de AEW Rampage, où ce soir, ben, on était à la même place que la semaine dernière, à Dallas, mais pas tout à fait à Dallas, à Garland, plus précisément, au Curtis Colwell Center. Et on commençait ça immédiatement avec John Moxley. C'est rendu presque une tradition. John Moxley, Sammy Guevara, on a vu là. Là, on en a parlé cette semaine de la nouvelle acquisition dans le giron de Tony Khan, monsieur Mansouri, qui va s'occuper de la production et tout ça. Celui qui était supposé être le remplaçant de Kevin Dunn éventuellement à la WWE. Est-ce qu'il y a-tu de la pression pour que Rampage, on remonte ça dans les codes d'écoute? Je ne sais trop, mais on a quand même envoyé ce soir John Moxley, Sammy Guevara, Britt Baker, Wardlow. Donc là, on a relevé un peu le niveau des vedettes à Rampage. C'était pas parfait. C'était pas parfait. Pendant que Ricky nous dit qu'il sortit pour le 30. Il sortit. Mais il... C'est Ricky, ça. Toujours en voyage, là, pour une situation comme ça. C'est comme... Je sais pas, il est où, le Raw de... Mais pas le Raw, mais le SmackDown, le dernier SmackDown. Mais il faudrait pas qu'il soit dans le coin comme de, du Nord-Est, parce que d'après moi, ouf, là, ça serait trop difficile. Ça serait trop difficile là, pour Ricky de gérer ça. Bref, Sammy Guevara, John Moxley pour commencer la soirée. Et ça a commencé dans le dégoût. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, vous savez, John Moxley doit saigner dans les matchs. C'est impératif. Comment John Moxley ne peut pas saigner dans un match? Là, on est allé une coche trop loin. Sammy Guevara, durant le picture-in-picture, a décidé d'arracher la boucle d'oreille de John Moxley directement de son oreille et de... C'était dégueulasse. C'était absolument dégueulasse. Ça a fait que John Moxley s'est mis à pisser de l'oreille. Et là, ben Guevara a dit « Non, ça, c'est pas suffisant. » Alors, il est allé dans le coin et au lieu de le mordre, commencer à... On le voyait pas bien faire, on sait pas exactement, mais il a suggéré qu'il était en train de littéralement boire son sang direct de son oreille. C'était dégueulasse. Et là, après, Jones s'est retrouvé dans les cordes de taille mélo. Il a mis la main en face pour un peu le bardasser. Puis tout, là, elle avait du sang plein dans la main. Puis là, elle s'est mis dans... Puis là, elle était comme... Ah! Puis là, après ça, les deux sont frenchés. Après avoir... C'était dégueulasse. Absolument dégueulasse. Sammy et Ty Mello sont allés beaucoup trop loin. À un moment donné, hey, on sort de la pandémie. Il y a encore des cas. Puis tout. Puis là, on est encore fragile. C'est le temps des fêtes. On se dit, oh mon Dieu, gardez-vous une gêne, s'il vous plaît. Là, tabarnouche. Pour un petit Rampage, comment? Enfin, là, j'imagine que ça a dû faire sensation sur Instagram, les voir se frencher avec du sang et tout. Bref, c'est ça. C'est épouvantable. Bref, Cutter ensuite de la troisième corde de la part de Sammy pour un compte de deux. Et là, je vous ai parlé la semaine dernière du fait que... C'est-tu ça la semaine dernière ou c'est cette semaine? C'est cette semaine. Seth Rollins, qui lui aussi a décidé de mordre Bobby Lashley en hommage à John Moxley, bien naturellement, John réplique à Seth en y allant de son stomp. Ça, là, c'est de la camaraderie fraternelle, inter-promotion. Ça, c'est beau. C'est beau quand même, les messages qu'ils s'envoient à Seth Rollins et John Moxley. Je suis après ça, ils se textent, puis ils s'envoient l'image, puis ils font « Ah, check, check, que j'ai fait. Ah, ah, j'ai ça. Ah, ah. » Là, ils s'envoient « Ah, 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 moi, essayer de faire ça, moi aussi. Ah, » ah. C'est très beau. Bref, ensuite, le moment fort, c'est quand Sammy a envoyé John Moxley sur la table des gardiens du temps avant de s'élancer de la troisième corde, lui qui est complètement loco et qui a fait un Swanton Bomb directement sur Moxley à travers la table des gardiens du temps. Ensuite, crossbody de la troisième corde, mais Moxley l'a renversé, des stomps dans le visage, un pile driver pour un compte de deux. Ensuite, premier bull choke, Sammy a contré le tout avec un tombé et est revenu avec le Death Rider de Moxley et s'était lancé à partir de la troisième corde pour un Senton Natomiko, mais Moxley s'en est sorti in extremis à 2,99. Ah! Et finalement, Spanish Fly, mais Moxley a renversé à l'atterrissage et a appliqué la prise du sommeil, son bull choke, pour... l'arbitre n'a pas vraiment eu le choix. L'arbitre a attendu très longtemps avant de vraiment mettre fin au combat, tellement que Sammy s'est endormi, s'est réveillé en regardant l'arbitre. Peux-tu arrêter le match? Oui, OK. Et il s'est endormi pour finalement donner la victoire à John Moxley en 15 minutes 40. Excellent match. Les deux ont brillé. Les deux ont fait le travail. Et c'est un excellent opener. Si vous n'avez qu'un match à regarder de Rampage, c'est absolument celui-là. Ricky qui nous dit que c'est à Tampa Bay. Ben oui, c'est vrai, c'est à Tampa Bay. Ils l'ont dit que c'est à Tampa Bay. J'aurais dû être... Mais c'est vrai, c'est à Tampa Bay. Donc, tu sais, entre, tu sais, durant le petit périple du Canadien en Floride, ben là, tu vas voir Canadien, après ça, Panthers, après ça, ben peut-être, tu sais, on sait pas. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on va mettre... C'est peut-être pas anodin, cette histoire-là, de mettre un match Kevin Owens, Sami Zayn, pendant que le Canadien... Oh, ils sont brillants! Ils sont brillants, la gang à Triple H. Je te dis qu'ils pensent à toutes ces affaires-là. C'est wise, c'est wise. Alors, voilà, très bon match. Très bon match à regarder, si vous aimez un peu le sang. Et là, après le match, ben, Moxley a pris le micro pour caller out Hangman Page, parce qu'il l'avait fait à Dynamite cette semaine, dire « Ah ouais, viens-t'en avec ta gang! » Et là, finalement, Hangman est sorti. Evil Uno essayer de l'en empêcher parce que Eggman Page n'est pas médicalement apte à se battre. Finalement, ben, il a quand même foncé vers Moxley. Moxley est allé le rejoindre sa rampe. On a commencé à s'approcher. La sécurité est arrivée. On a repoussé les deux. Il y avait de la sécurité sur Moxley dans le ring. Il y avait Eggman à l'extérieur qui lui est monté sur le tablier et a exécuté son buckshot lariat, mais sur un gars de sécurité et non pas John Moxley. Puis finalement, ben, on a réussi. Les deux se sont tapochés. On a réussi à les séparer. On verra. Ça va être quand est-ce qu'il y aura cet affrontement. Ça s'en vient. Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est que Eggman, il n'est pas si mégané que ça, finalement. Alors, tout va bien. Alors, c'était quand même beau, au moins, de le revoir un petit peu en action. Saraya, elle, nous a dit qu'elle serait très attentive cette semaine au match entre Hikaru Shida et Jamie Hayter pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. Eh bien, alors voilà, elle veut aussi devenir championne éventuellement. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle aura sa chance? Fort probablement. Quand? Revolution, peut-être. On verra. Bref, ça sera à suivre, Saraya, qui veut devenir championne. FTR était dans le ring pour une drôle de promo, mais une belle promo très authentique de la part de FTR qui ont dit que justement, ils étaient un peu déçus de leur semaine. Ils ont perdu les titres à OH. Ont perdu face voyons, j'allais faire un lapsus épouvantable, mais j'allais dire Private Party, mais c'est pas du tout Private Party. C'est épouvantable de traiter les Acclaim de Private Party. Je m'excuse. Des fois, dans ma tête, pouf, c'est vendredi, il est tard. Bon. Donc, The Acclaim qui ont remporté face à FTR la semaine dernière, et ça aurait pu être aussi une autre source de frustration. Le fait que Dax Harwood s'est pété le coccyx aussi durant le Color Chain, en tout cas, le match de Final Battle. Donc, maison, non, ce n'est pas tout ça. C'est le fait d'avoir laissé tomber les gens, eux qui disent que c'est grâce à la foule qu'ils ont eu la plus belle année de leur carrière cette année en termes de qualité de match, en termes justement de championnat, etc. Et la foule qui a répondu en disant qu'il le méritait. Ensuite, on veut être fier de l'héritage qu'on laisse FTR. Et ben, ils ne veulent pas que ça soit détruit. Surtout pas par deux maudits fatigants d'As Boy. Et donc, ce ne sera pas eux qui vont mettre fin à quoi que ce soit. Dax nous a expliqué que sa famille était là samedi. Et sa fille lui a dit, au lieu de lui dire « Ah, oh, beau match, comment tu te sens? » Il a dit « Hey, papa, les gens, ils t'aiment vraiment beaucoup. » Puis là, il a dit « Ouais, ouais. » Puis là, elle a dit « Mais comment ça? » Puis il a dit « Bon, c'est un peu chien de la part de ma fille, mais à pas tard. Comment ça que les gens m'aiment autant? » Puis là, il a dit « Ben, c'est parce que, tu sais, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je veux être lutteur. Puis mon but, c'est de vous faire vivre ma passion de la lutte puis vous faire ressentir des choses. Puis c'est exactement ce qu'on voulait faire samedi passé. Puis je pense que c'est pour ça que les gens nous aiment. Mais les maudits ass boys sont venus tout gâcher cette belle soirée. Fait que là, revenez-vous-en, on va faire ce que Dalias aurait dû faire. C'est-à-dire de vous botter le cul. Donc, ce sera le match cette semaine à Dynamite entre FTR et les Ass Boys. Très bonne promo, le fun, dans le ring. Authentique. Il y avait une belle... C'était mieux que juste de faire un maudit segment plate en coulisses. Donc, c'est très, très bien. Belle promo de la part de FTR. Il y a eu une petite promo, elle, en coulisses plate, qui sert à rien, un peu presque, avec Jade Cargill et ses baddies. Et là, il y a un peu de dissension dans les baddies. On sent que, whoops, Red Velvet, il y a quelque chose avec Red Velvet qui se passe. Jade Cargill qui est encore fâchée contre Little Bow Wow. On verra aussi où ça va mener. Mais il y a de la dissension. Red Velvet, d'après moi, ne sera pas baddies très, très longtemps. Elle qui a été blessée, qui est revenue. On verra. C'était le moment de la lutte féminine. Et ce soir, Britt Baker affrontait Sky Blue. Première chose que j'ai notée, c'est que Jamie Hayter était encore dans le coin de Britt Baker. Puis, je sais pas. J'aurais gardé Jamie Hayter à l'extérieur de ça. Parce que je comprends qu'on a voulu faire ça pour la finale. Mais, c'était un peu poche de voir la championne dans le contexte de Britt Baker et de Jamie Hayter. Parce que c'est pas l'image. Tu veux avoir l'image de Jamie Hayter qui est top. Puis là, ben, elle fait encore comme celle qui est dans l'ombre de Britt Baker. Alors que Britt Baker, elle, quand elle accompagne, t'as pas ce feeling-là. Fait que, enfin, peu importe, c'est pas très grave. Gros match. C'est ça. C'est pas un match qui va passer à l'histoire, qui a duré 6 minutes 13. Rebel a donné le gant à DMD, mais non, Sky Blue a tout de suite donné un coup de pied. Et là, après, l'a envoyé dans les cordes, a voulu faire son fameux code blue. Mais la manière qu'elle l'a raté, c'était comme mal raté. La façon, enfin, bref, elle a raté son code blue. Et Britt Baker est revenue avec le stomp pour aller chercher la victoire en 6 minutes 13. Et après le match, elle a voulu, puisqu'elle avait le gant, mais qu'elle s'en était pas servie, a voulu appliquer le lockjaw sur Sky Blue. Mais Hikaru Shida est arrivé à la rescousse avec son kendo stick. Elle a sacré une bonne claque à Rebel sur la rampe. Elle est rentrée dans le ring. Et là, DMD ne savait pas trop exactement comment réagir. Alors, elle a tenté une corde à linge. Elle est passée dans le vide. Et là, Shida a comme juste passé en dessous pour faire face à Jamie Hayter. Mais à la dernière seconde, c'était tellement bien exécuté que je ne sais même pas si Britt était au courant ou non. Elle s'est revirée, puis pas clair, le kendo stick est parti directement sur Britt Baker, qui l'a vendu zéro pin bar. Ça, j'ai trouvé ça un peu particulier, comparativement à Rebel qui est en train de mourir sur la rampe. Elle l'a pas trop vendu, DMD. D'après moi, c'était pas supposé. Mais il y en a sacré une claque, bang, qui a bien rentré. Un beau triple le long de la ligne. Bref, et après, ben, elle a simplement jeté le bâton et fait face à Jamie Hayter sans l'attaquer. Donc, pour mettre la table au match qui aura lieu ce mercredi. Donc, très bon, très beau petit segment. Pour le reste du match, ben, Sky Blue, c'est ça. C'est pas ça. Ça s'en vient, maintenant, j'imagine. Elle est toute jeune. Ce sera pas ça. Segment qui m'a un peu titillé, qui m'a un peu fait pourquoi ils font ça? Preston Vance, qui a fait une entrevue avec JR. Je ne vais pas perdre ma caméra. J'arrange tout ça. Voilà. Une entrevue pour justement nous rappeler ce qu'il a fait il y a maintenant 2 semaines. Et c'est un drôle de segment. JR qui faisait une entrevue avec lui, puis c'était comme juste un. Mais ça a été comme un petit minute, gros max, pour expliquer que tourner le dos à Dark Order. Et lui, il nous a dit que bon, son boss, c'était pas un enfant. Il ne voulait pas accepter que Minus One soit le boss, tout ça. Bizarre. Mais il a dit surtout que Dark Order, ce n'était pas ses vrais frères, oui. Lui qui avait été choisi par Brody Lee, comparativement aux autres. Donc, Brody Lee avait vu des qualités athlétiques en lui. Ces qualités-là qui n'existent pas chez les autres membres du Dark Order et ses vrais frères. C'est toute la gang avec Rouge. Puis ça, c'est ses vrais frères. Il comprend ce que Minus One a vécu. C'est terrible. Personne n'a pas un enfant qui devrait vivre ça. Mais il trouve que depuis 2 ans, Minus One est rendu un peu un bébé gâté qui se prend pour un autre et qui devrait commencer à grandir. Puis là, ce que je vous raconte là, ça s'est déroulé très rapidement à 1 minute. Puis tu fais, ben, c'était un gros spot qui a fini Rampage. Puis là, il en reparle 2 semaines plus tard dans 1 minute. Puis c'est comme ordinaire un peu. Je comprends que c'est pas l'histoire la plus incroyable. Puis que, tu sais, tout le monde avait oublié, malheureusement. Mais ça a été traité un peu ordinaire. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Preston Vance. Si vraiment, tu sais, si on peut faire quelque chose de plus tangible, puis que ça mène à une histoire concrète. Pour l'instant, ça m'a l'air d'une storyline qui va se terminer à Dark, puis qui va probablement mourir, puis que personne ne va vraiment avoir de suivi là-dessus. C'est triste, mais c'est comme ça. Jérémy qui dit, en parlant de Sky Blue, que c'est un bel emballage, mais le contenu n'est pas à son prime, mais elle est encore jeune. Oui. Elle est encore très jeune. Puis c'est ça. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. On verra si oui ou non, ça va marcher dans le cas de Sky Blue. Pour l'instant, c'est ça. Il y a du travail à faire, mettons. Mais bon, on verra. On ne sait jamais. On ne peut pas juger tout de suite. Aller trop vite. Ils sont jeunes. Peut-être que Dante va la prendre sous son aile. Montrer à faire des enfants. Je ne sais pas. Wardlow, ensuite. Wardlow. Dans un match très important, Wardlow affrontait Exodus Prime. Exodus Prime, bien connu des gens qu'ils connaissent sur la scène indépendante, mais pas super connu de la foule de Dallas. Mais quoi qu'il y a eu quelques personnes, je dis ça, mais il y a quelques gens qui ont qui ont chanté son nom au début quand on l'a présenté avec Exodus Prime. Fait que quand même, t'es un peu connu. C'était pas, tu sais, notre nouvelle amie, Andretti. Oui, Action Andretti. Ce n'était pas lui, quand même. C'était pas, tu sais, même si on a voulu dire, ah, peut-être, on ne sait pas. Non. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est si divertissant que ça, aujourd'hui, de voir Roy Wardlow faire sa symphonie de Powerbomb sur un gars qu'on ne connaît pas? La réponse, pas tant. Vraiment pas tant. Et je ne veux pas dire qu'on est en train de l'échapper solide avec Wardlow, mais on est en train un petit peu de glisser sur une pente qui fait que tu fais « Ouf, dépêchez-vous à rapiécer tout ça, parce que, oupalaï, c'est pas bon. » Moi, de voir Wardlow faire des powerbombs sur Exodus Prime, là, j'étais ouais, « OK, finis-en. » C'est pas... il devrait être beaucoup plus loin dans son développement. Là, ça sert absolument à rien. À part nous ramener Wardlow, puis nous dire que Wardlow existe. Ce qu'on sait, on est au courant. C'est juste que tu l'utilises pas comme faut. Puis que là, ça a comme pas de bon sens ce qui est arrivé à Full Gear. Mais là, t'es pogné. Fait que, faites quoi? Mais l'utilisation de Wardlow pour nous faire des squash contre des jobbers, c'est fini, là. C'est terminé. Prends des vrais gens de All Elite, qu'on connaît ou peu, mais utilise ton personnel. Exodus Prime, ça sert à rien. Bref, tout ça était pour mettre la table à une promo après, où Wardlow a callé out Samoa Joe, qui est apparu à l'écran, le traitant d'insolent devant le roi de la télévision, lui disant qu'il ne veut pas défendre sa ceinture encore une fois au Texas. Quel état de schnout. Il ne veut plus jamais faire ça. Et donc, devra attendre le Colorado le 28, mercredi, oui, le 28 décembre au Colorado. Et c'est à Dynamite, donc, qu'il y aura un match entre Samoa Joe et Wardlow pour le titre TNT, j'imagine. Je ne sais pas si les deux ceintures seront en jeu. Probablement pas. Mais bref, c'est là qu'on va avoir ce match. Qui va-tu être bon? J'étais un peu refroidi pour vrai. Il va falloir qu'il fasse plus pour la semaine prochaine, ce mercredi, pour nous remonter parce que là. Non! Faites de quoi? Dernier match de la soirée, c'était le main event Dustin Rhodes, qui est accompagné des Best Friends et de Orange Cassidy et de Danhausen, pour affronter Butcher and the Blade, Kip Sabian et Trent Seven dans un affrontement 4 contre 4. Et on a commencé immédiatement avec un petit affrontement Trent contre Trent. Alors, les deux, Trent, Seven et Beretta, qui se sont affrontés au début de match. Il n'y a pas eu de gagnant, puisque les deux se sont fait des clotheslines instantanées ou synchronisées. Ils sont tombés au sol, ce qui a fait sortir finalement tout le monde. Et là, ben, le bordel a commencé, comme c'est le cas généralement dans les matchs 4 contre 4. Il y a eu un petit affrontement, un premier, entre Kip Sabian et Cassidy. Et Sabian s'est retrouvé à l'extérieur. Cassidy a voulu s'élancer en suicide dive, mais il ne pouvait pas le faire parce que Penelope Ford et The Bunny, habillés ensemble, habillés un peu genre en écolière pas fine dans les films d'écolière quand il y a des pas fines. Bref, faites-vous une image. Et ils ont comme bloqué, en fait, un petit mur pour empêcher Kip de recevoir un suicide dive. Bref, c'était pas mal l'essentiel de l'histoire de ce match, d'établir la rivalité avec Cassidy et Kip Sabian. Et en même temps, de faire bien paraître Dustin Rhodes, lui qui avait annoncé sa retraite la semaine dernière, que 2023 serait sa dernière année. Donc, on a voulu le faire bien paraître. À deux reprises, on lui a donné les hot tags. Et durant les hot tags, il s'est permis son fameux power slam rapidement à The Butcher. À The Blade et aussi à Kip Sabian. Ensuite, les Best Friends se sont fait un gros câlin pour faire un topé sur tout le monde à l'extérieur. On subit ensuite un moonsault de la part de Sabian, un sentence bomb ensuite de Dustin Rhodes sur tout le monde à l'extérieur aussi. Et là, pendant ce temps-là, Cassidy s'est retrouvé dans le ring et The Bunny et Penelope Ford, oui, ont voulu causer de la distraction en distrayant l'arbitre. Mais là, Cassidy, plus futé, a feigné de s'être fait frapper dans les parties basses. Donc, il est tombé au sol. Là, c'était comme « Ah! » Et là, Bryce Remsburg, oui, s'est tourné, a vu ça. Il a dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Pendant ce temps-là, Penelope Ford voulait faire la même chose, on ne sait pas trop. Danhausen est lui aussi rentré dans le ring. Et Danhausen a fait pareil comme Cassidy. Et lui aussi s'est jeté à terre Et là, il avait très mal aux parties basses. Puis là, les deux filles étaient comme, ah, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'arbitre, il est obligé de chasser Penelope Ford et de Bonnie du match. Puis là, pendant ce temps-là, Kip Sabian, là, pas fin, s'est permis de faire un low blow directement à Dan Housen parce que lui, il n'était pas impliqué dans le match. Alors, c'était vraiment pas gentil. Bref, on a continué. Dustin est venu sauver Trent Beretta et a repris justement le deuxième hot tag. Il y a eu un Dallas Destroyer qu'on a appelé comme un Canadian Destroyer sur Kip Sabian. Ensuite, on l'a envoyé Sabian dans le coin. Dustin voulait faire son coup lui aussi dans les parties basses. Finalement, Remsburg l'a empêché. Cassidy est arrivé, a fait ses tout petits coups de pied. Rigolo. Finalement, l'arbitre l'a empêché. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est Dustin Rhodes qui est allé du coup de pied fatal. Et on est revenu à la charge avec le Orange Punch, Bulldog, Combo et Trent Seven qui a subi le tombé pour donner la victoire à Dustin Rhodes et au Best Friend. Faire une grosse célébration de Babyface pendant que Dan Housen se pognait encore la fourche, lui qui avait très mal. Match correct pour faire briller Dustin. Ça va donner probablement un match bientôt contre Trent Seven et ben Cassidy et Kip Sabian qu'on va voir éventuellement s'affronter pour le titre All Atlantic. Ça devrait être bon, correct, le fun, mais ça reste du limite, tu sais, c'est limite Rampage Dark. On n'est pas dans du gros... c'est pas de la grosse construction. C'est pas de la grosse... c'est pas super divertissant. C'est correct, mettons, ça fait un job, mais c'est ça. Ça stagne un peu, j'ai l'impression. Puis le titre, c'est bizarre qu'on mette le titre All Atlantic là-dedans, à moins que c'est vraiment le rôle qu'on veut donner à ce titre-là, mais je sais pas. Yeah, c'est pas, c'est vraiment limite. C'est du bon Dark. Puis j'écoute pas Dark, fait que c'est ça. Ça donne à peu près ça. Donc, Rampage correct, qui a eu, c'est quand même correct, bon match. Celui-là, 3,25, pas plus. C'était le fun pour Dustin, bien paru là-dedans. Mais c'est ça. Sinon, soirée correcte ou justement des affaires au milieu que bah c'était pas parfait. Pour une heure de show, mettons que c'était correct. Si vous n'avez qu'un seul match à regarder, je pense que le Moxley Guevara va être amplement suffisant. Jérémy qui dit un gars avec un gabarit comme ça, probablement en parlant de Wardlow, qui ne sont pas capables de bien le booker depuis Lesnar ou même Batista. La lutte a changé, mais ça reste surprenant. C'est peut-être surprenant que ça soit difficile de bien booker Wardlow. Après, je pense que c'est les circonstances. Parce que après Double or Nothing, Wardlow avait vraiment un gros momentum. Là, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'on avait prévu des choses pour lui, soit avec MJF, soit avec CM Punk? Ou, tu sais, qu'est-ce qui allait tout tourner? Comment on allait tout virer ça? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que tout ça a comme mal... ça s'est mal déroulé. On avait peut-être pas bien prévu les choses ou les plans B, etc. Puis là, ben toute la période de l'été, jusqu'à All Out, etc., ça a tellement été compliqué, booking pour tout, que j'ai l'impression que Wardlow a un peu été oublié là-dedans. Et que, bon, il a dit, bon, il était champion, fait qu'on ne savait pas trop exactement quoi faire. On n'a pas travaillé aucune histoire. Il n'y a pas eu de rivalité avec vraiment personne. Là, on a eu l'espèce de patente avec Samoa Joe, qui était déjà une équipe un peu étrange, qui n'a pas donné grand-chose, sinon l'espèce de break-up qui a mené au match à Full Gear. Puis là, il y a une petite rivalité avec Powerhouse Hobbs. Mais c'était, tu sais, c'est comme vraiment pas... c'est pas grand-chose, c'est pas rien de très, très, très tangible. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment comme... Wardlow est un peu passé dans l'oubli ou tombé dans l'oubli du booking, là, on savait plus quoi faire, on était compté avec tout ce qui se passait en coulisses. Puis là, ben, whoops, on a comme oublié de booker Wardlow. C'est plate, ça arrive... Mais ça devrait pas arriver. Ça devrait être beaucoup plus simple, effectivement, de booker Wardlow. Puis, il y a des potentiels avec un paquet de gros bonhommes Puis même avec des plus petits. Mais en même temps, ça prend, c'est ça qui est dommage, c'est que ça prend quelque chose, ça prend un peu de substance, ça prend des personnages qui ont des histoires à raconter, puis ça manque. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont des histoires, il n'y a pas beaucoup de monde qui font, qui ont des personnages qui racontent des choses, qui ont des personnages qui font en sorte que peu importe leur taille, tu sais, Mark Sterling, quand on a utilisé Mark Sterling, c'est toujours avec des gars que tu fais, ouais. Mais c'est pas grand-chose. C'est pas assez fort. C'est pas assez... Il n'y a pas assez de substance encore. Puis, ben là, avec Samoa Joe, oui, il y a quelque chose là, mais ça a été mal ficelé, tout ça. Puis ça donne ça. J'aimerais que, éventuellement, on en a parlé cette semaine, mercredi, à la révision de Dynamite, que qui on verrait peut-être contre MJF. Moi, c'est mon choix que d'ici la fin de 2023... On peut savoir une rivalité ou quelque chose qui commence entre MJF et Wardlow. Mais pour ça, il faut l'amener. Il faut le faire passer à vraiment la prochaine étape et que Wardlow soit un main eventer. Ce que je pense aurait dû être fait quelque part en 2022, mais avec tout ce qui s'est passé, avec tous les changements, avec tout ce qui en est suivi, ben ça s'est comme pas fait. Puis Wardlow, malheureusement, a été énormément refroidi. Fait qu'on verra. Mais je peux pas croire qu'on va échapper au Wardlow à long terme. Il y a trop de potentiel, puis il y a trop de quoi faire qui est évident. Donc, j'ai hâte de voir. Jérémy qui dit une run à la NJPW. Peut-être, je sais pas. Là, j'avoue qu'il va falloir que je suive la NJPW de façon beaucoup plus intense parce que déjà, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, le mois de janvier, et Wrestle Kingdom nous annonce un très gros programme. Donc, je pense qu'il va falloir que je m'attarde beaucoup à ce qui se passe. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour lui. Je ne sais pas, ça se peut. Mais en même temps, je le verrais pas trop s'effacer de All Elite Wrestling. Il a besoin, je pense, d'être là et de faire sa place, de faire son nom. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui ont besoin de travailler pour justement aider à élever plus de... Ça ne peut pas juste être des Chris Jericho qui font ça. Puis présentement, il n'y en a peut-être pas assez des gars qui sont là pour élever les autres. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire dans les prochaines semaines avec Wardlow. Donc voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de la révision des comptes. Merci beaucoup d'avoir été là. Épisode classique. J'espère que vous êtes restés bien habillés. Maintenant, vous pouvez vous relâcher. Passez un très bon week-end. Vous amuser. Dernier week-end avant le temps de Noël. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Et nous, on va se retrouver ce lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi à se mettre sous la dent? Bayley qui va affronter Becky Lynch dans un combat de Four Horsewomen. Et tu sais, ça tombe bien parce que justement, avec le départ de Sasha Banks, officiel presque, en tout cas, du moins, tout semble indiquer que c'est pas mal terminé et qu'on devrait peut-être l'avoir à Wrestle Kingdom. Ben, c'est beau de voir deux Horsewomen qui s'affrontent parce qu'on a dit que justement, tu sais, on voulait pas donner d'argent à Sasha Banks. Puis ça, c'était elle qui voulait la même chose que Charlotte et Becky Lynch. Ben, on lui a dit non, tu mérites pas cet argent-là. Mais là. Fait que c'est beau. C'est une belle métaphore. Kayfabe, hors kayfabe. Je trouve ça très beau. C'est le fun. Alors, bon week-end. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, Jérémy, Ricky, entre autres. Mais tous ceux qui ont été là, merci beaucoup d'avoir été là. Continuez à. Vous pouvez toujours partager le contenu, vous abonner à la chaîne. De façon audio ou sur YouTube en vidéo. Grand merci à vous tous. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Et c'est ça, restez actifs. Jusqu'à la prochaine révision des comptes. Dernière semaine complète la semaine prochaine avant les vacances des fêtes. Des belles vacances. Le fun. Et on va avoir des belles rencontres, des belles surprises. Le fun. On s'amuse. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.
money, c'est la révision des cons. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des cons. Hey, Benny Limosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World, l'univers au complet. Monday night, Benny, Friday night, Benny, deux fois semaine, on est Benny par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf. C'est la révision des comptes. Aïe.